dans sa vie, avait toujours l'impression de ne pas avoir une foi assez profonde. Alors, que veut dire la foi, hein, maintenant, c'est Louis a parlé, là, je sais très bien. Mais lui était persuadé de manquer de foi, d'avoir une voix assez profonde pour être pardonné et pour avoir ce salut auquel il aspirait en permanence, puisqu'il se considérait comme un pécheur, comme un pécheur perpétuel. Voilà. Donc, c'est là où je veux intervenir. Lui.
Moi, je crois que tout ça est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et que, en fait, cette façon de Luther d'insister sur le péché de l'homme n'est pas une façon de l'écraser, mais au contraire de le libérer. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une façon de dire, écoutez, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous ne faites pas bien. Et donc, vous êtes de toute façon pécheur. Donc, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, ce n'est pas un problème, puisque tout le monde l'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, nos propres péchés ne sont même plus des abominations, puisque de toute façon, tout homme est pécheur. Donc, ça fait partie de la nature humaine. Donc, à partir du moment où on sait qu'on est pécheur, on l'assume facilement. Et ensuite, c'est Dieu, lui, qui nous sauve. Et donc, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, point. Donc, il n'y a aucune question de savoir est-ce que j'ai la foi, pas la foi, etc. De toute façon, ma foi est insuffisante. Et donc, vous n'avez même pas à vous culpabiliser de ne pas avoir une foi suffisante, puisque de toute façon, votre foi est insuffisante. Et je sais que, par exemple, il pose la question de savoir si le pasteur doit être exemplaire et parfait ou pas. Et Luther dit que non, le pasteur n'a pas du tout besoin d'être exemplaire ou parfait, et qu'au contraire, justement, s'il est pécheur, il n'en sera que d'autant mieux un exemple que c'est la grâce qui sauve. Et que justement, on est dans une sorte d'antimoralisme extraordinairement libérateur, parce qu'il n'y a rien de tel que les gens qui prétendent être parfaits pour vous culpabiliser et pour être infiniment destructeurs et pour vous rendre insupportables vos propres défauts, alors que justement, à la limite, pour Luther, un brave pasteur qui prêche l'évangile et qui est imparfait mais qui vit sous la grâce, c'est un témoignage de la grâce. Et je pense que de ce côté-là, un bon exemple de théologie luthérienne l'a été fait par quelqu'un qui n'était pas luthérien, mais c'est le journal du curé de campagne là, de Bernanos, qui se termine en disant « Tout est grâce » à la fin. C'est assez touchant, ce livre aussi. Et ce « Tout est grâce », c'est vraiment le fin mot de Luther, je crois. Et Luther a découvert ça. Alors qu'il n'y ait pas eu de temps en temps des relents d'inquiétude en disant « Mais finalement, est-ce que je suis quand même à la hauteur de cette grâce qui m'a été donnée, etc. ?» Ça a pu arriver. Mais globalement, j'ai l'impression que chez Luther, c'était quand même, sur ce point-là, assez simple. De toute façon, vous êtes pécheur. Ça, c'est la citation de l'Épître aux Romains de Paul. « Il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont corrompus, etc. » Mais Dieu a choisi de confondre tout homme dans le péché pour le sauver entièrement. Donc Dieu nous sauve, point. Quant à la question de la prédestination, c'est vraiment, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais je crois que c'est vraiment un problème collatéral qui ne se posait pas du tout aux réformateurs, en fait. Dans le fond, les réformateurs étaient quasiment universalistes, je dirais. Et que l'histoire de la prédestination, c'est-à-dire que certains ne seraient pas sauvés par Dieu, pour eux, ceux qui n'étaient pas sauvés par Dieu étaient de toute façon tellement éloignés de ces questions-là et tellement éloignés de tout qu'ils n'en avaient même pas conscience et que c'était des demi-animaux, et que par conséquent, le simple fait de se poser la question était déjà un signe de l'élection et du fait qu'on ait la grâce, si vous voulez. Donc, en tout cas, la prédication des réformateurs ne laissait aucun doute à leurs interlocuteurs sur le fait que de toute façon, ils étaient sauvés par grâce. Donc, il n'y avait aucune angoisse à ce niveau-là.
Et puis c'est surtout que ça les désangoissait, puisque de toute façon, ça appartient à Dieu. Donc,
voilà.
Donc et ça nous appartient pas, voilà.
Ça appartient à Dieu, et de toute façon, Dieu fait bien.
Voilà, exactement.
Et Dieu vous sauve. Donc voilà, maintenant on peut passer à autre chose.
Quelle que soit votre conduite.
Oui, de toute façon, vous êtes pécheurs.
Un peu plus, un peu moins,
vous êtes tous pécheurs.
De toute façon, on est nuls. Alors,
et en fait, l'idée de Luther et des réformateurs, c'est de dire, écoutez, arrêtez de vous préoccuper de la question du salut. C'est une mauvaise question.
Exactement.
Il le dit dans une des thèses, je vous la dirai la prochaine fois, où il dit si le prédicateur il passe plus de la moitié de son sermon à parler de la question des indulgences et du salut, c'est un mauvais sermon. Voilà. Ce qu'il faut, c'est prêcher l'évangile. Parce que l'évangile, ça vous invite à aimer votre prochain, à donner aux pauvres. C'est ça qui est intéressant. C'est pas sans arrêt se demander si je suis sauvé ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui fait que toute la prédication de Luther et toute cette théologie même, nous, on se préoccupe là que de la question du salut, pour Luther, c'est une question réglée. Et Calvin aussi, à partir de là, on va pouvoir enfin parler d'autre chose.
Oui.
C'est ça. Et ce qui les intéresse, c'était autre chose. Et donc, c'était une façon de dire, écoutez, c'est Dieu qui s'en occupe. De toute façon, vous êtes pécheurs, de toute façon, vous ne valez pas un clou. Donc, arrêtez de prétendre par vos mérites, gagner quelque chose, etc. De toute façon, vous ne gagnez rien. Bon. Donc, si vous êtes sauvés, c'est par grâce. Si vous êtes sauvés, c'est gratuit. C'est un don de Dieu. La question, puisque maintenant vous êtes pécheurs et que vous êtes sauvés, qu'est-ce que vous allez faire dans le monde? Et ça, c'est la question de l'Évangile. Et je trouve que de ce côté-là, l'Évangile, la pensée des réformateurs a été extrêmement, extrêmement fine et extrêmement libératrice et a permis, justement, je dirais, de développer une éthique de la liberté et de l'amour qui ne soit pas une sorte d'éthique de marchandage permanent avec Dieu. Et qu'à partir du moment où on est pécheur et pardonné, eh bien, on peut bosser, on peut travailler, on peut créer des œuvres, on peut être quelqu'un de bon dans sa vie, on peut faire des tas de choses. Tout est ouvert devant soi.
On peut pas les faire.
Ça a été formidable, ça. Je pense que ça a été cette pensée. D'ailleurs, on voit bien que tous les pays qui ont été touchés par la réforme se sont développés à tout point de vue, du point de vue moral, économique, du point de vue de l'entraide, etc., d'une façon extraordinaire. Parce qu'enfin, on abandonnait cette espèce d'obsession égoïste de son propre salut, qui de toute façon coupe de l'Évangile. C'est ce que dit Jésus, d'ailleurs. Oui, quand Jésus dit « qui veut sauver sa vie la perdra », effectivement, dès qu'on se préoccupe de son salut, on est loin de l'Évangile. Et de ce côté-là, moi, je trouve que les Luther et Calvin ont été formidables. Et c'est dommage de trop insister finalement sur la question du salut. Je dis ça parce que je vais en reparler pendant encore une heure la semaine prochaine, mais c'est dommage parce que je crois que c'est finalement pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est aussi le changement de paradigme, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses. Ben, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Et puis du coup, ça donne aussi une autre connotation aux choses, parce que même quand il parle de la loi, il dit pas qu'il faut plus pas faire. À la limite, il dit que nous ne devons pas aimer, nous pouvons aimer. C'est pas la même chose. Et du coup, quand il dit nous pouvons aimer, et je pense que, et ça c'est très évangélique, c'est-à-dire que la loi, et c'est même dans l'Ancien Testament, la loi est pas là pour nous contraindre, elle est là pour nous libérer. Donc faut pas la prendre comme une contrainte. Donc quand on nous dit aime ton prochain comme toi-même, c'est parce que je suis aimé que je peux aimer, mais cet amour même que je suis amené à porter, enfin à vivre, à partager, c'est quelque chose qui me libère, qui me fait grandir. C'est pas du tout quelque chose qui, je le vois pas, ça me donne pas le salut, mais ça me donne de la joie ici déjà, maintenant. Après le reste on s'en fout. Enfin, j'exagère, mais on s'en fout un peu. Oui.